Monsieur Fecteau, je voudrais premièrement commencer par poser la question facile un peu. Comment ça se passe depuis le début de la rentrée côté pandémie et adaptation à la crise sanitaire?
Je dirais que ça se passe quand même assez bien. C'est certain là, qu'il y a, c'est extrêmement stressant. C'est stressant pour notre personnel, c'est stressant pour les parents, on le sait. Pour les élèves aussi, quoique c'est impressionnant jusqu'à quel point les élèves s'adaptent probablement mieux que les adultes, je dirais. Mais quand même, il y a un élément de stress, mais je dirais que en tout et partout, là, ça se passe quand même assez bien, je veux dire.
Avant le début de la rentrée scolaire, la taille des classes faisait partie des inquiétudes des parents. Comment est-ce que ça a été géré depuis le début de l'année scolaire?
Deux éléments. Premièrement, la taille des classes au niveau de CFPNE, notre conseil, a toujours été relativement basse. Donc, on n'a pas généralement là, des classes de 30 élèves comme on entend parfois dans les médias. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des classes qui sont dans les 20-25, mais généralement, c'est pas mal plus bas que la moyenne provinciale. En plus, on sait qu'on a quand même à peu près 160 élèves dont les parents ou l'élève ont décidé de faire l'apprentissage virtuel. Donc, et on a maintenu quand même le nombre de groupes classes qu'on avait dans chacune de nos écoles, ce qui veut dire que, bon, par exemple, si on avait une salle de classe de deuxième année dans une école où on devait avoir 18 élèves, dans le fond, s'il y en a deux qui sont à la maison en virtuel, cette salle de classe-là a été maintenue à 16 élèves. Ce qui fait que la moyenne des salles de classe, évidemment, d'élèves dans les salles de classe est plus basse et qui était déjà pas très, très haute pour commencer. Donc, on se sent très, très à l'aise avec les chiffres qu'on voit comme ça.
Évidemment, la COVID-19 affecte les régions différemment. Alors, c'est probablement plus une question de cas par cas, mais pour ce qui est du transport scolaire, comment est-ce que ça fonctionne et surtout s'il y a des lignes qui ont été affectées?
Oui, on a eu quelques lignes qui ont été affectées depuis le début depuis le début de l'année scolaire. Je dirais relativement peu, mais quand même, là, quand il y a une ligne qui est affectée dans une communauté, évidemment, ça fait mal à ses familles là, et leurs enfants. On n'a pas annulé beaucoup, là, je dis pas que ça n'a pas arrivé, mais on n'a pas eu des annulations le jour, comme on a vu dans d'autres conseils. Mais on a quand même eu certains autobus qui ont été obligés de faire un genre de double route durant la journée, ce qui veut dire qu'ils ramassaient un groupe d'élèves le matin, ils étaient à l'école et retournaient ramasser un deuxième groupe d'élèves, étant donné qu'on avait quand même une pénurie de conducteurs. Mais ça c'est pas mal rétabli. Là. Comme je dis, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres défis parce que n'importe quel jour qu'un conducteur qui appelle, qui dit « je me sens pas bien, je peux pas rentrer travailler », bon, on n'a pas une longue liste de suppléants. C'est que ça demeure un défi, mais c'est un défi qui est relatif là, comparativement à ce qu'on voit ailleurs en province.
En parlant de défis, le côté apprentissage en ligne est un gros défi, non seulement pour les enseignants, mais pour les familles aussi qui doivent laisser leurs enfants à la maison pendant la journée. De ce côté-là, comment est-ce que ça se déroule? Et à travers le CSPNA, environ combien de personnes ont favorisé cette option-là cette année?
Donc, faut se souvenir, c'est ça que quand on parle de travail du CSPN, on parle vraiment de Perry Sound jusqu'à Hearst. Donc, c'est une très grande étendue. On a, dernière nouvelle, autour de 160 élèves qui sont dans notre école virtuelle élémentaire. Puis, on a un autre, peut-être une vingtaine d'autres élèves au niveau du secondaire qui suivent des cours par l'entremise du consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, là, qui est un consortium qui appartient aux 12 conseils francophones qui offrent justement des cours en ligne. C'est à peu près ça. Et oui, le CAVILFO, ça fait consortium d'apprentissage virtuel de langue française d'Ontario, ça fait quand même longtemps que ça existe. Donc, le système avait quand même été rodé depuis longtemps. Mais notre école virtuelle élémentaire, elle a été mise sur pied là, la première semaine de septembre. Il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de résolution de problèmes nécessaires, évidemment, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau l'élève qui est à la main, l'enfant qui est à la maison, mais son frère, sa sœur sont dans la même salle en apprentissage virtuel aussi. Ce genre de défi-là, mais on a une bonne équipe qui ont travaillé pour essayer de résoudre ces défis-là. Puis je pense que le programme fonctionne quand même bien. Puis je veux dire, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ces élèves-là, ils ont, ben, ou en tout cas leurs parents ont choisi l'apprentissage virtuel. Donc, il y avait évidemment l'option là, de dire je vais le prendre en personne, qui est très différent de ce qu'on a vu en mars passé, évidemment. Donc, je pense que en ce moment, ça répond bien aux besoins, mais faut dire que c'est quand même assez taxant là, de maintenir les deux systèmes en parallèle.
Du côté satisfaction des parents, est-ce que ça s'est amélioré comparativement à la situation au mois de mars, vu le montant de temps qui a été passé sur la mise en place du nouveau système d'apprentissage en ligne?
Oui, puis je vais avouer là qu'on n'a pas nécessairement fait un sondage récent sur la satisfaction des parents avec le modèle actuel, mais le modèle actuel est très très différent. Donc, au mois de mars là, jusqu'au mois de juin, il y avait pas beaucoup d'enseignement synchrone, donc d'enseignement où l'enseignant était avec ses élèves là par l'entremise de l'ordinateur et pouvait voir ses élèves pendant des heures. Et maintenant, il y a quand même ce modèle-là qui existe où les élèves sont en synchrone avec l'enseignant ou l'enseignante pendant une partie de la journée selon ce que le ministère de l'Éducation nous a demandé de faire là, en termes de nombre d'heures par niveau scolaire. Donc, le système est très différent. Puis encore, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, les parents avaient quand même un choix. Au mois de mars, ils n'ont pas eu le choix. C'était tout le monde à la maison. Tandis que là, les parents ont quand même le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou de les garder à la maison. Avec le modèle d'apprentissage virtuel.
Et pour terminer, c'est un petit peu plus spécifique à la région de Kapuskasing et Timmins. Au cours des dernières semaines, il y a quelques cas de COVID-19 qui ont été rapportés dans des écoles. Les protocoles qui sont en place, à quoi ça ressemble maintenant depuis que l'année scolaire a débuté? Évidemment, au cours des dernières semaines, ça a dû être modifié à un certain point. Mais dans l'éventualité que ça arrive à Cap, qu'est-ce qui est en place et comment va se faire la communication avec les parents?
Ouais, ben c'est ça. Je t'avoue que les protocoles sont en place depuis longtemps, mais sont quand même en évolution constante. Ça, c'est garanti pour X nombre de raisons, dont il y a des endroits où il y a plus de cas, il y a des endroits où il y a moins de cas. Quand ça vient à la région, ben à toutes nos régions, mais certainement pour la région 4, par exemple, si jamais il y avait un cas dans une de nos écoles, on travaille de très, très, très évidemment avec le bureau de santé. C'est le bureau de santé vraiment qui prennent le lead là-dessus et qui commencent eux-mêmes par communiquer avec ce qu'ils appellent les contacts directs de la personne qui aurait été déclarée comme étant COVID positif. Donc, c'est eux autres qui communiquent avec ces gens-là pour leur donner les consignes de qu'est-ce qu'ils devraient faire pour assurer la sécurité. Tout le monde doit se faire tester, ils doivent rester à la maison et ainsi de suite. Une fois que nous autres, on a confirmation que les premiers contacts pour les gens directs ont été faits, on informe généralement nos communautés. On informerait, là, parce qu'on n'a pas eu l'obligation de le faire encore, on informerait nos communautés scolaires que bon il y a un cas qui a été déclaré au niveau de quelqu'un à notre conseil et on informe les gens. Mais ce que le bureau de santé nous dit, et je crois que c'est très, très important ce message-là, c'est que on ne veut pas réagir aux cas qui sont déclarés positifs. Si une personne est déclarée positive, puis que là on réagit puis on dit ok maintenant faut se protéger, on n'est pas en avant là, on est en train de, c'est justement une réaction et on risque d'être trop tard. Faut agir avant, puis ça veut dire garder la distanciation de 2 mètres, porter le masque, s'assurer de laver ses mains de façon très régulière, puis c'est ça, suivre les consignes du bureau de santé avant même que il y ait une inquiétude, qu'il y ait un cas. Parfois, on se dit, tu sais, dans le Nord, des fois, on se dit, il n'y a pas de cas, il y a moins de danger, mais il y a des raisons pourquoi il n'y a pas de cas. On veut garder ça ici, ça fait qu'il faut continuer à faire là, ce qu'on nous dit de la part des bureaux de santé.
Excellent. C'était toutes les questions qu'on avait à poser, M. Fecteau.
Parfait. Ben, je te souhaite une bonne fin de journée.